Votre coach chez vous, une chronique proposée par Christine Huchette.
Christine Huchette, bonjour.
Bonjour Fabrice.
Après avoir parlé pendant 4 émissions des styles sociaux, aujourd'hui nous allons aborder un nouveau thème qui est celui du stress. Le stress, évidemment, c'est quelque chose qui nous touche tous, mais nous allons, pour commencer, et nous en avons l'habitude, c'est important, par une définition. Dites-nous s'il vous plaît, Christine, ce que c'est exactement que le stress.
Alors le stress, c'est une réaction de tout être humain face à une agression, face à un événement inattendu. En général, on appellerait stress la chose qui cause cette réaction. Donc dans le langage courant, on peut à la fois parler de stress comme étant la réaction ou on peut parler de stress comme étant l'événement qui a provoqué la réaction. Ce stress a été mis en évidence par Hans Selye, c'est un Canadien. Il a défini cette notion de stress dans les années 70 avec son premier livre.
Donc c'est quelque chose d'assez récent en fait.
Alors, pas vraiment en fait. Ce qui est très récent, vous avez raison de le noter, c'est le fait qu'on s'y intéresse autant. Parce que les phénomènes de stress sont de plus en plus nombreux. Ceci étant, les hommes de Cro-Magnon étaient aussi soumis à des stress.
Tiens.
Voilà. Par contre, je ne sais pas sur quelle base on a pu affirmer
vérifier
qu'ils étaient peut-être soumis 4 ou 5 fois dans la journée à des situations de stress, alors qu'aujourd'hui, on parle de 60, 70 causes de stress dans la journée et même peut-être jusqu'à 80 pour les personnes qui ont énormément de responsabilités. Par contre, ce que disait Hans Selye, la bonne nouvelle, c'est que justement, puisque ce sont des réactions à des situations, ça veut dire que nous sommes en vie. Voilà, le stress, c'est la vie. S'il n'y a plus de stress, c'est qu'il n'y a plus d'événement, qu'il n'y a plus de vie.
Au départ, le mot stress vient du latin, si je ne me trompe.
Tout à fait. Donc, cela vient du mot stringere en latin. En latin, ça veut dire donc serré. Et il était utilisé en vieux français et on parlait de stressé. Et nous avons laissé tomber l'utilisation de ce mot, les anglo-saxons l'ont repris sous forme de stress, et puis nous avons donc adopté le mot anglo-saxon, alors que nous avions un mot en français pour désigner ce phénomène.
Donc si on s'y penche depuis les années 1970, c'est parce que le phénomène semble avoir pris de l'ampleur.
Il a pris de l'ampleur puisque les aléas de la vie moderne font que nous sommes de plus en plus soumis à des réactions inattendues. Nous sommes de plus en plus soumis à des événements. La vie s'est accélérée, on parle souvent de vitesse de changement. Et de ce fait, les nouvelles technologies qui ont aussi aidé à se trouver plus ou moins confrontés en même temps à différents phénomènes ont fait que le stress a augmenté. Je fais allusion là, par exemple, à des problèmes de concentration que nous pouvons avoir, puisque nous sommes sollicités dans plusieurs domaines, peut-être en même temps, hein, peut-être que ce n'est pas le cas, je préviens les auditeurs, ce n'est pas le cas, mais je pourrais être tout à fait en train de vous parler et de regarder mon iPhone, hein, c'est ce que font beaucoup de gens. Et là, effectivement, ce sont des nouveaux éléments qui apportent de la régression dans la concentration, et un manque de concentration va générer du stress.
D'accord, donc on n'est pas multitâche, en fait, on augmente nos sources de stress.
Exactement.
À réfléchir, par conséquent. Le stress se manifeste sous diverses manières. Il y a 3 formes, je crois, que vous relevez.
Tout à fait. Les 3 formes, c'est bien sûr la forme physiologique, physique, pour la deuxième, et pour la troisième, psychologique. Et là, tout de suite, je voudrais vous parler des réactions physiologiques. Mais pour le faire, si vous le permettez, je vais utiliser l'émotion de la peur, puisque les mécanismes sont à peu près identiques. On a tous eu au moins peur une fois dans notre vie, ne serait-ce que d'un serpent, donc on peut tout à fait imaginer le processus. Alors, qu'est-ce qui se passe, hein? Que ce soit une réaction au stress, un stress ou une peur, les informations arrivent dans notre cerveau via nos 5 sens. Donc le cerveau, par exemple, si on parle du serpent, le cerveau est prévenu que nous venons de voir quelque chose, en tout cas, qui ressemblerait à un serpent. Ces informations donc arrivent dans le thalamus, qui lui va informer un certain nombre de régions, entre autres la région de l'amygdale. Donc ça n'a rien à voir avec l'amygdale que nous avons dans la gorge, mais cette région a la même forme, la forme d'une amande. Cette amygdale est une espèce de bibliothèque avec un certain nombre d'informations et elle va comparer le flux d'informations qui lui arrive avec celles qu'elle possède et essayer de voir s'il y a des informations qui ressemblent à des informations de danger. Et si c'est le cas, donc c'est-à-dire que la chose que l'on a vue par terre d'après les informations macro que nous avons et qu'elle a, elle se dit que c'est peut-être un serpent, elle va lancer l'alarme. L'amygdale va lancer l'alarme, donc va renvoyer des informations à l'hypothalamus pour lui dire « attention, danger, on met en place les secours ». Alors les secours, eh bien, ce sera ce dont on parlera un peu plus tard, l'adrénaline, le cortisol, etc. Entre-temps, je voudrais quand même, avant de parler de ces secours, les informations vont aussi dans une autre région que l'on appelle l'hippocampe. Et l'hippocampe intervient au deuxième degré. Donc l'hippocampe, ce sont les archives, en quelque sorte. L'hippocampe prend un peu plus de temps. Bon, les secours sont envoyés, tout le monde est prêt, donc lui, il a un tout petit peu plus de temps pour vérifier si l'alarme qui a été donnée par l'amygdale est nécessaire, est-ce qu'il faut la poursuivre ou au contraire, est-ce qu'il faut l'arrêter. Alors reprenons notre exemple de serpent. S'il s'agit d'un serpent, eh bien, on enverra l'alarme et peut-être que ce sera une alarme de fuyons, courons, sauvons-nous. Ou alors, si c'est un bout de bois, l'hippocampe va lancer des informations, revenez tous à votre place, il n'y a pas besoin de s'énerver, ce n'est qu'un bout de bois. La peur va travailler à deux niveaux. Un premier niveau où on déclenche l'urgence pour être prêt, si jamais l'hippocampe valide. Et puis si l'hippocampe invalide, on en sera pour nos frais, on aura peut-être transpiré un peu, on aura peut-être le cœur qui se sent un petit peu emballé, mais on sera resté sur notre chemin.
Par rapport à ce que vous venez de dire, Christine, j'ai l'impression qu'il y a à nouveau une vraie problématique de temps. Et nous vivons justement dans des temps où on n'a pas beaucoup de temps. Est-ce qu'on a le temps de laisser fonctionner notre hippocampe pour qu'il nous permette de prendre du recul face au stress ?
Alors, bon, je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas vous donner tous les éléments à ce point. Disons que effectivement, la relation au temps est très importante. Et si je pense que nous sommes de plus en plus face à une situation de stress, c'est peut-être aussi parce que nous avons de moins en moins de temps pour gérer les situations qui nous arrivent et pour les décoder. Et effectivement, peut-être aussi pour enrichir notre base de données. C'est-à-dire que je vous ai parlé du serpent, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que cette information « attention, danger » quand on voit un serpent est une information que nous avons d'une manière génétique, puisque notre race a peur des serpents. Enfin, on s'est rendu compte que le serpent pouvait être un danger pour nous. Donc ces informations-là, nous les avons depuis des siècles dans nos gènes, et donc cette information nous appartient et elle existe. Tous les nouveaux stressants, on peut dire ça peut-être comme ça, n'ont peut-être pas encore eu le temps de bien les enregistrer, de bien les identifier. Et de ce fait, parfois, on va avoir peur, on va être stressé parce qu'on ne sait pas exactement quel est le potentiel de danger que nous avons devant nous.
Mais ça veut dire aussi alors qu'il y a un aspect irrationnel par rapport au vécu du stress, c'est-à-dire qu'on peut être stressé par quelque chose, par un événement, sans l'avoir véritablement expérimenté et sans savoir si nous avons des raisons d'avoir peur.
Tout à fait, et là, ce sera peut-être un thème à aborder. On part vers ce qu'on appellerait l'anxiété dans ces cas-là. Voilà.
Alors, nous avons essayé de planter le décor dans cette émission, de parler du stress de façon globale. Vous avez pris cet exemple au niveau émotionnel, donc physiologique de la peur. Est-ce que ça s'applique pour les autres émotions, donc ?
Toutes les émotions ont ce style de réaction. Ce qui est spécifique donc pour la peur, par exemple, vont être les hormones que nous allons déclencher lors de l'émotion de la peur. C'est-à-dire que je vous ai parlé de signaux qui étaient envoyés. Alors, on va donc faire appel à des neurotransmetteurs que nous avons dans le cerveau. Dans ces neurotransmetteurs passe un courant électrique qui, lui, produit par des réactions chimiques. Là où les neurotransmetteurs se rejoignent. On peut parler à ce moment-là, par exemple, de molécules chimiques comme le GABA. Je n'irai pas très très loin dans ce domaine, mais il faut savoir que lorsqu'on prend des médicaments, eh bien, ce sont des médicaments qui vont agir sur ce GABA, par exemple, pour ralentir le flux d'informations, de manière à ce que l'on s'énerve moins vite, qu'on prenne du recul par rapport aux informations qui nous arrivent. Et ensuite, les hormones que l'on connaît bien, l'adrénaline et le cortisol, sont donc produites par des glandes surrénales, donc des glandes qui se trouvent au-dessus de nos reins. Et l'adrénaline va être l'hormone qui va déclencher les secours, sur lesquels on peut s'appuyer pour nous mettre en état de vitesse, en quelque sorte. Et le cortisol est l'hormone qui va servir de carburant, puisqu'elle va faire en sorte de transformer nos graisses en sucre, de manière à ce que l'on puisse aller alimenter nos muscles. Donc, en restant sur des images, l'adrénaline va demander aux muscles de se mettre en mouvement, et le cortisol va amener le carburant, le sucre, pour que ces derniers puissent le faire.
Pourquoi, face à certaines situations de stress, contrairement à ce que vous venez de dire, on se trouve complètement démuni et même bloqué parfois ?
Là, je pense que, enfin, je n'ai pas de réponse bien précise, mais ça peut être aussi l'idée qu'on a analysé que la situation la plus sécurisante était de ne rien faire. Donc en fait, si on n'a pas tout de suite peut-être la solution, qu'il faut courir ou qu'il faut se cacher, ça peut être aussi une situation, peut-être comme les animaux restent sur place parce qu'ils pensent qu'ils se cachent. Voilà, c'est peut-être la réaction animale que l'on a eue à un moment donné.
Alors nous allons continuer à réfléchir autour du stress, à voir dans la prochaine émission quelles sont les dimensions psychologiques par rapport au vécu du stress, et puis on essaiera évidemment d'apporter un certain nombre de moyens pour nous permettre de mieux le gérer, mais ça on le fait au fil de nos émissions. Christine, je vous remercie en tout cas pour aujourd'hui, pour ces définitions, ces éléments de compréhension sur le plan physiologique. À très bientôt alors.
Merci Fabrice, au revoir.
C'était votre coach chez vous, une chronique proposée par Christine Huchette.